sa bouche s'accomplira. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais et pour l'éternité changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Et on va lire quelques passages ici dans la parole de Dieu. On va commencer à Luc chapitre 24. On a déjà entendu un beau chant ce matin qui parlait de la souffrance de Jésus, qui parlait du fait que Jésus, par choix, a pris une décision de prendre sur lui-même nos péchés pour, en fait, devenir substitut, de prendre notre place. Lui qui était parfait, lui qui n'a pas péché, lui qui était innocent, a pris une décision de se laisser arrêter, de se laisser crucifier à notre place pour qu'on soit sauvé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans cette province, dans cette ville, ce matin même, si on ferait un sondage et on poserait la question à la population de Drummondville ou à tout le monde dans le fond, dans la province du Québec, moi je dirais que quand même un grand pourcentage de notre population croit que Jésus a vécu sur la terre, il croit que Jésus est mort. Et même, il y a beaucoup qui croient qu'il est ressuscité, au moins intellectuellement, ils ont cette conviction. Mais cela n'a pas encore changé leur vie. Amen? Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je veux que ça change votre vie. Donc, je veux que ça descende juste, pas, il ne faut pas que ça reste là dans ta tête, mais il faut que ça descende. Des fois, c'est la différence, c'est juste 6 pouces, c'est la seule chose qui va faire la différence entre la victoire ou la défaite dans votre vie. Hein? La réussite ou l'échec, c'est des fois juste une question de 6 pouces. Il faut que ça descende de là jusqu'à là. Amen. Et aujourd'hui, on va lire les choses. Et je veux que vous lisiez ces choses avec moi, avec un cœur ouvert, en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer, car l'Esprit Saint est là ce matin. Et on va voir que Jésus, quand il a pris cette décision de devenir notre substitut, quand il s'est laissé crucifier, mais quand je dis « c'est laissé crucifié », Jésus a dit « personne prend ma vie, je le donne ». Il a dit « j'ai l'autorité de le donner, j'ai l'autorité aussi de le reprendre », n'est-ce pas? Et quand en fait, juste pour se mettre un peu dans le contexte, il y a 2000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez que quand Jésus était dans le jardin, quand les gens sont venus pour le saisir, pour l'arrêter, et ils cherchaient c'est qui Jésus, et les gens finalement, après avoir eu le fameux de Judas qui l'a trahi. Les gens demandent, est-ce que c'est toi, Jésus? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu, je suis, n'est-ce pas? Et quand il a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la Bible nous dit que quand Jésus a dit tout simplement, je suis, que toutes les personnes armées qui étaient devant lui sont tombées sous la puissance.
Amen. Amen.
Il y a même des personnes qui croient. Moi, je ne suis pas certains, mais vous vous rappelez, il y a un jeune homme qui était en train de suivre Jésus après son arrestation, qui était presque tout nu, il avait juste un linge sur lui. Il y a certains érudits bibliques qui croient que, pourquoi est-ce qu'il était tout nu? Pourquoi est-ce qu'il était là juste avec un linge? Il y a juste un couple de fois quand le mot pour ce linge est utilisé dans la parole de Dieu, et c'est utilisé pour ceux qui ont été préparés pour leur enterrement. Il y a des personnes qui croient, quelques érudits bibliques qui croient même que quand Jésus a dit « Je suis » et les gens sont tombés sous la puissance, il y avait sur la même place, à l'autre côté du jardin, il y avait les cimetières, n'est-ce pas? Il y a certains érudits qui croient que ce jeune homme-là fut ressuscité d'entre les morts même. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais laisse-moi vous dire que Jésus, à plusieurs reprises, a ressuscité les morts, n'est-ce pas? Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la résurrection et la vie. Il avait juste besoin de dire, Lazare, sors, et Lazare est revenu à la vie. Vous vous rappelez, une fois, Jésus se promenait et il y avait une procession funéraire. Il y avait un jeune homme qui venait de mourir et tout le monde était en train de pleurer et il portait ce jeune homme dans une procession et Jésus a tout simplement touché le cercueil et qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme s'est levé debout. Salut, maman. On parle de Jésus. Il est la résurrection. Il est la vie. Quand il a dit « Je suis », pourquoi est-ce que c'est significant? Parce que n'oubliez pas que quand Moïse, exemple, a rencontré Dieu dans le désert, dans le buisson ardent, il a dit « Mais qui est-ce que je vais dire? » T'a envoyé. Dieu a dit « Dis-leur que je suis t'a envoyé. Hein? » Dieu s'appelle « Je suis ». Pas « J'étais », pas « Je vais être », mais « Je suis ». Alléluia! Et Jésus-Christ a dit, je suis. Pourquoi? Parce que il est Dieu. Il était Dieu et il sera toujours Dieu, n'est-ce pas? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on voit que Dieu s'est fait chair, que Dieu a pris une décision de se laisser arrêter, de se laisser clouer à la croix. Jésus a dit lui-même que, avec un seul mot, il aurait pu demander et crier au secours et 10 000 anges dans un clin d'œil, aurait été présent pour exercer jugement et pour secourir Jésus quand il était sur la croix. Mais Jésus, à cause de son amour pour nous, il a dit non, il faut que je meure, il faut que je prenne la place, il faut, ils ont péché, ils vont périr à l'enfer, ils vont être perdus pour l'éternité, à moins que je prenne leur place, donc Jésus a pris notre place. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou quoi? Il n'y a pas une meilleure nouvelle. Mais Jésus a pris notre place. Jésus est mort, il était enterré, mais la bonne nouvelle et la raison pour laquelle on va célébrer aujourd'hui, c'est que Jésus n'a pas resté mort. Après 3 jours, comme il a dit, il est revenu à la vie. Et quand lui, il est revenu à la vie, ce n'est pas comme quand les autres ont été ressuscités d'entre les morts non plus. Parce que là, il y avait quelque chose de différent qui s'est passé. Les autres qui sont morts, dans l'Ancien Testament, on sait que leur âme est descendue à ce qu'on appelle le sein d'Abraham, un endroit, le séjour des morts, où il y avait 2 compartiments. Une place pour les méchants qui souffraient dans le feu, et une autre place qui s'appelait le paradis ou le sein d'Abraham. Mais quand Jésus fut crucifié, lui, il fut séparé d'avec le Père, esprit, âme et corps. On sait qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On sait que la Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures et que pendant 3 jours et 3 nuits, on voit que ce n'était pas quelque chose d'agréable pour Jésus. Comme Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson, où les gens vont dire la baleine, mais dans le fond, la Bible dit que c'était un poisson. De la même façon, Jésus était 3 jours à l'intérieur de la terre. Et pendant ce temps-là, Jésus, il savait qu'il reviendrait à la vie. Il savait que c'était quand même temporaire, mais ce n'était pas quand même agréable. Vous êtes d'accord? Jésus a payé un prix pour nous. Jésus fut séparé d'avec le Père, mais quand il est revenu à la vie, alléluia, la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Donc Jésus-Christ est devenu le premier-né d'entre les morts. Et c'est lui qui est ressuscité une fois pour toutes et qui n'avait jamais plus besoin de mourir. Tous les autres qui ont été ressuscités, Lazare, on voit des personnes dans l'Ancien Testament qui furent ressuscitées. Eux autres, ils ont dû quand même mourir. Amen. Mais Jésus, quand il est revenu à la vie, n'avait plus besoin de mourir. Il a conquéré la mort et le séjour des morts une fois pour toutes. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais lisons dans vos notes aujourd'hui, Luc chapitre 24, verset 1 à 7. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre la terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus-Christ, littéralement, Dieu s'est fait chair. Il est devenu un homme. La Bible dit qu'on a été capable de le toucher, le voir, l'entendre. Ce n'était pas une apparition ou une théorie. Jésus-Christ a littéralement vécu sur la terre et l'histoire confirme que Jésus était une véritable personne. Ce n'était pas juste quelque chose qui a été créé dans l'imagination, mais on a même des non-chrétiens qui sont honnêtes intellectuellement, doivent avouer que Jésus a vraiment vécu. Un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth a vécu sur la planète Terre il y a plus de 2000 ans. Personne ne peut nier son existence. L'histoire le prouve, n'est-ce pas? On sait que Jésus a véritablement vécu. C'était un homme, mais il était un homme différent que tous les autres hommes. Il était à 100% homme, mais à 100% Dieu. Amen? Il a vécu ici sur la terre et littéralement, il fut crucifié. Littéralement, il fut enterré. Son corps était dans le tombeau pendant ces 3 jours. Mais, laisse-moi vous dire que le premier jour de la semaine, il fut littéralement ressuscité. Ce n'était pas juste encore en théorie, mais littéralement, physiquement, son corps fut ressuscité. Et les gens étaient capables de le toucher et de le voir encore de nouveau. Et littéralement, ce même corps qui fut ressuscité, 40 jours après, fut enlevé au ciel. Et ils l'ont vu partir. Avec les yeux, ils ont vu Jésus monter au ciel. Et les hommes ont dit, ce même Jésus que tu as vu monter au ciel, il va revenir de la même façon. Et littéralement, physiquement, Jésus-Christ de Nazareth va revenir et prend sa place sur le trône ici sur la terre. Après la tribulation. Amen? Donc, je veux que vous compreniez, on ne parle pas d'une théorie, ce n'est pas juste une belle histoire, mais c'est la réalité. Jésus-Christ de Nazareth est vivant aujourd'hui. Actuellement, si on pourrait voir sur l'écran, en direct au ciel, Jésus de Nazareth qui est glorifié, qui est merveilleux et magnifique, il est assis actuellement à la droite du Père. Il est vivant. Alléluia. Et parce qu'il vit, je peux vivre. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'il est ressuscité? Parce que ça, c'est vraiment la question primordiale. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a pas vraiment une foi chrétienne. Mais si Jésus est ressuscité, chaque homme, chaque femme et chaque enfant est obligatoirement face à face avec une décision majeure à prendre. Soit je vais accepter le fait que Jésus est vivant et qu'il est le Seigneur des Seigneurs et que je lui dois ma vie, ou je vais le rejeter. Amen? Et aujourd'hui, le choix est devant chacun de nous. Et la plupart de nous, je crois, nous avons déjà pris cette décision. On a cru, on a reçu Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Mais aujourd'hui, le monde entier a besoin d'entendre que Jésus est vivant, il est ressuscité, et qu'eux autres aussi ont besoin de prendre une décision. Est-ce qu'ils vont recevoir Jésus, ou est-ce qu'ils vont rejeter Jésus? Et il y a des personnes, des grands intellects de notre temps, que dernièrement même, il y a quelques années, des sceptiques, des athées, des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, qui ont su eux-mêmes, ils ont avoué le fait que si on peut prouver que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, là, on n'a plus rien à craindre. On sait que le christianisme, c'est une farce et que c'est juste une fable, on pourrait dire. Mais moi, je peux penser actuellement à au moins 3 hommes, il y a plus, mais aux 3 hommes qui sont maintenant très, très bien connus dans le monde, qui ont pris une décision de faire des recherches poussées pour prouver que Jésus n'était pas ressuscité. Un de ces hommes, c'est Josh McDowell, que maintenant, il y a ça, on recule une 30aine d'années. Josh McDowell, aujourd'hui, il a un ministère mondial. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant ses recherches pour prouver que Jésus n'est pas vraiment ressuscité des morts? Il a découvert le contraire. Il est devenu chrétien et maintenant, il passe son temps, depuis des années, à partager avec surtout les étudiants à l'université les preuves, l'évidence qui démontre que Jésus est vraiment vivant aujourd'hui. Il y a une autre personne qui s'appelle Lee Strobel. Lui, c'était un journaliste. Et lui, il a dit, bon, mais moi, je vais prouver que Jésus n'est pas vraiment vivant. Et encore, pendant je ne sais pas combien d'années, il a fait des recherches vraiment poussées pour trouver que, et prouver que Jésus n'est pas vivant. Et il a encore lui. Il a dit, bon, mais si je regarde toute l'évidence, si je regarde tous les documents de l'histoire, pas juste la Bible, mais si je regarde l'évidence naturelle, je ne peux pas faire autrement que croire que Jésus est vivant. Et lui aussi, aujourd'hui, il a tout un ministère chrétien et il prêche aux milliers de personnes aujourd'hui la réalité de Jésus-Christ. Donc, il est impossible de regarder l'évidence de la résurrection de Jésus. Il est impossible de regarder cette évidence et rester, on pourrait dire, authentique intellectuellement parlant, être honnête intellectuellement parlant, et dire que non, ce n'est pas vrai. Il faut avouer, il faut conclure que Jésus est vivant. La Bible nous donne plusieurs exemples, l'histoire nous donne plusieurs exemples, et aujourd'hui, je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles je crois que Jésus est ressuscité. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Premièrement, première chose que je vois, c'est que vous voyez, quand Jésus fut crucifié, il y a des personnes qui savaient que pendant son ministère, il parlait souvent d'une résurrection. Et les gens sont allés voir les autorités, ils sont même allés voir Pilate. Ils ont dit, écoute, cet imposteur, il a dit pendant son temps ici sur la terre, avant sa crucifixion, qu'il allait ressusciter le troisième jour. Alors donc, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon ses disciples vont venir prendre son corps et dire à tout le monde qu'il est ressuscité. OK? Correct? Voici qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez prendre des soldats, les gardes, des professionnels en réalité. Vous allez mettre la pierre qui est devant le tombeau, vous allez mettre un sceau. Les Romains avaient un sceau que, laisse-moi vous dire, qu'une fois brisé, si quelqu'un, par une infraction, briserait un sceau romain, vraiment la pénalité pour cela, c'était la mort. En fait, eux autres, je pense que si je ne me trompe pas, c'était la crucifixion à l'envers. Donc, on parle de quelque chose d'assez sérieux. Donc, ils disent, vas-y, et pendant 3 jours, mets un garde devant le tombeau et mets un sceau. Il faut que la pierre soit scellée. Parce que Pilate et même les Romains savaient que si ça arriverait, que les disciples voleraient le corps de Jésus, ils pourraient partir des rumeurs qui mettrait la ville et toute la terre, en fait, à l'envers. Ça bouleversait tout leur système. Et en fait, c'est ça qui s'est passé, mais ce n'était pas un vol encore, c'était une véritable résurrection. Regarde bien, Matthieu 27, 64. « Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendrez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Et l'histoire prouve qu'il y avait véritablement une selle qui était placée sur la pierre quand Jésus fut enterré. Et on sait que ce sceau fut brisé. Mais c'est pas les disciples qui l'ont brisé, c'est la puissance de l'Esprit. Amen. Mais la deuxième chose, c'est la pierre roulée. Vous vous rappelez que quand ils sont allés voir le tombeau pour préparer le corps de Jésus, Marie, les deux Maries, se posaient la question, mais qui va rouler la pierre pour nous? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Parce que la pierre devant le tombeau était si énorme, si grande. Ça pesait plus que 2 tonnes, ils disaient. Que c'est sûr que ces 2 femmes ne seraient pas capables de déplacer cette pierre. Et surtout parce que la pierre est gardée par des soldats romains et la pierre est scellée avec un sceau romain que si quelqu'un touche à ça, il va être crucifié. OK? Mais probablement, eux autres ne savaient pas que la pierre était scellée à ce moment-là. Les deux maris ne savaient probablement pas que c'était scellé. Ils savaient juste qu'il y avait une pierre devant le tombeau et que la pierre était si énorme qu'ils seraient dans l'impossibilité de le rouler tout seul. Ils auraient besoin d'aide. C'est tellement grand, en fait. Regarde bien. Marc 16, 4 dit, et élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande, tout le monde est très grande, avait été roulé. Le mot très grand ici, c'est en grec, c'est le mot méga. C'est ça. C'est le, est-ce que ça vous dit quelque chose, méga? On parle d'une méga grosse pierre. Une méga grosse pierre. Qui va faire cela? Mais quand ils arrivent, la pierre est déjà roulée. Qui a fait ça? Les anges de Dieu, un méga Dieu, oui, a fait cela. Encore, c'était un fait historique que le tombeau de Jésus fut fermé avec une méga grosse pierre et scellé avec un sceau romain et gardé par les soldats romains. Mais là, ils arrivent, la pierre est déjà roulée. Gloire à Dieu! Qui a fait ça? Penses-tu que les soldats ont roulé la pierre? Je crois que non. Laisse-moi vous dire, c'était pas drôle d'être un soldat romain. Eux autres avaient une discipline sans comparaison. Hein? Souvent, c'est une vérité, hein? Eux autres, ils étaient prêts à mourir. Ils savaient, hein, parce que vaut mieux mourir dans une bataille ou en faisant qu'est-ce qu'on est demandé à faire que d'être crucifié à l'envers. Vous êtes d'accord? Jusqu'au point où les historiens nous disent que juste pour démontrer le niveau de discipline d'un soldat romain, des fois, il y avait des capitaines qui diraient à un soldat, va, jette-toi du précipice d'une montagne, par exemple, se suicider, et les soldats le feraient, boum, juste comme ça. On n'hésite pas d'obéir au commandement du centenier. S'il nous dit, fais quelque chose, on le fait. Vaut mieux mourir comme ça que d'être crucifié à l'envers. Donc, penses-tu que les soldats ont aidé les femmes à dérouler la pierre? Je crois que non. C'est Dieu qui l'a faite. Alléluia. En fait, moi, je crois que numéro 3, ça c'est une autre raison pour laquelle je crois que Jésus fut vraiment ressuscité aussi. C'est parce qu'on avait des soldats effrayés. Ils avaient peur de quoi? Deux femmes avec des aromates? Oh! Je pense pas, hein? Mais ici, en Matthieu chapitre 28, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire au commandant, à Pilate? Oh, désolé, mais il y a deux femmes qui sont venues et on avait peur. Non? Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. Donc on sait que c'est un ange qui a roulé la pierre, et regarde bien, et s'assit dessus. Donc là, on a une méga grosse pierre. Pour s'asseoir sur une méga grosse pierre, ça prend une méga gros, un ange qui est méga gros aussi, n'est-ce pas? Au moins méga grand. Bon, je vais m'asseoir. Boum. Donc, c'est pas étonnant que les soldats furent effrayés. Hein? Ils sont là, tout d'un coup, boum, tremblement de terre, un ange apparaît, brrr, déroule le sceau. Lui, il s'en fiche de petits sceaux romains. Et il s'assied. Quelque chose, n'est-ce pas? Mais regarde bien. Verset 3 dit, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devint comme mort. C'est quelque chose. Matthieu 28, moi j'ai entendu des histoires de même dans notre temps. J'ai entendu des histoires des missionnaires. Il y avait une fois des personnes aux Philippines qui faisaient une réunion dans une église. Et il y avait des terroristes qui sont arrivés avec les mitraillettes. Et puis, ils sont arrivés et ils ont dit, oh, bon, en fait, ils étaient prêts à tuer tous ceux qui étaient là en train d'adorer Dieu. Mais tout d'un coup, ils ne savent pas pourquoi. Je pense qu'il y avait, je ne sais pas combien, 8 ou 10 de ces terroristes. Tout d'un coup, ils deviennent comme blancs comme la neige, le visage. Hein? Ils laissent tomber les armes et ils prennent la fuite. Qu'est-ce qu'ils ont vu, hein? Et par la suite, c'est ça, il y a des témoignages qu'ils ont vu des anges énormes. Et quand ils ont vu ces anges énormes, c'est comme, changer de plan, hein? Et on voit que ces soldats ont eu ce genre d'expérience. Ils voient l'ange, ils tombent comme morts. Et je pense probablement que ça a pris un peu de temps pour eux d'avoir assez de courage d'aller voir les autorités. Et en Matthieu 28, verset 11, et la seule chose qui a sauvé leur vie, c'est la réalité de la résurrection. Si Jésus ne fut pas vraiment ressuscité, ses soldats auraient été tués. Regarde bien, pendant qu'elles étaient en chemin, verset 11 de Matthieu 28, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Vite, ces disciples sont venus de nuit de le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouvernement l'apprend, parce qu'il savait, hein, nous l'apaiserons. » Et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Jésus fut vraiment ressuscité, hein? Numéro 4, une autre raison pour laquelle je crois que Jésus est ressuscité, parce que le tombeau fut abandonné aussi. C'était vraiment vide. Quand arrivé, le tombeau était vide. Sauf il y avait juste le linge qui a couvert Jésus qui était là. Et même le petit linge qui a couvert son visage était plié. Hein? Et on voit que Jésus avait tout ce, il, avec calme, probablement, a plié ça, pris la peine. Il n'a pas juste dit, mais il a pris la peine de plier le linge, de mettre ça comme il faut, à la bonne place. Ça, c'est une bonne leçon pour nous, n'est-ce pas? Hein? Mesdames, ça c'est votre occasion de dire oui, hein, et regardez votre mari. Vous savez, Jésus, il ne met pas ses bords par terre, hein? Non. Ça, c'est juste pour vous réveiller un peu. Il ne faut pas causer des chicanes, surtout à la journée de Pâques. Hein? Mais le tombeau fut vide. Et c'était vide. Et ça, c'est historiquement parlant, et ça, c'est la beauté, on pourrait dire, de tous les autres. Comparé à toutes les autres religions, on peut aller voir les places où les leaders de ces autres grandes religions sont enterrés. On peut dire, voilà, il est là. Mais nous, les chrétiens, on peut aller en Israël aujourd'hui et dire, voilà la place où il était. Mais il n'est plus là. Maintenant, il est au ciel. Amen. Assis à la droite du Père. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est là aujourd'hui par son esprit, mais physiquement, il est assis à la droite du Père. Amen. Il y a des personnes qui ont toutes sortes de théories. Ah, oh, mais tu sais quoi? Peut-être Jésus n'était pas vraiment mort. Hein? Il est juste tombé dans les pommes sur la croix. Et puis, après, il est revenu à la vie. Mais pas à la vie, mais il est revenu. Il a repris conscience. Et c'est pour ça. Mais ça, c'est ridicule. Hein? Imaginez. Hein? Parce que quand les gens l'ont vu, il était battu de verge jusqu'au point où il n'était même pas, on n'était pas capable de reconnaître que c'était un homme, la Bible dit. Jusqu'à quel point il était battu. Hein? Même à la fin, les soldats ont percé son côte. Ils ont vu le sang et l'eau couler. Penses-tu que même si c'est vrai que Jésus était juste, pas vraiment mort, mais il a juste perdu conscience, qu'il serait assez fort pour apparaître à ses disciples et de parler avec eux pendant 40 jours du royaume de Dieu? Je crois que non. Penses-tu qu'il aurait été capable de rouler la pierre, briser l'assaut et puis faire quelque chose avec les soldats qui le gardaient? Je crois que non. Il y a d'autres personnes qui ont dit, « Oh, mais tu sais quoi? Ils se sont trompés de tombeau. » C'est pas vraiment là où Jésus était enterré. Oui. Penses-tu que les Romains auraient permis qu'une telle rumeur commence? Ils auraient tout de suite dit, « Non, 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 on ne s'est pas trompé de tombeau. Veux-tu voir la preuve? Voici le corps. Il est là aujourd'hui. » Mais il n'avait pas encore à montrer, parce que le tombeau était vide et le corps était parti au ciel. Amen. Alléluia. Donc le tombeau vide, c'est une autre raison pour laquelle je crois vraiment que Jésus est ressuscité. Numéro 5, et voici quelque chose que Dieu a réfuté. Il y avait les témoins visités. Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais regarde bien qu'est-ce que Paul, l'apôtre, a dit en 1 Corinthiens 15, 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc, quand l'apôtre Paul a écrit le livre aux Corinthiens, la lettre aux Corinthiens, il a fait référence du fait que, après la résurrection de Jésus, il a apparu à toutes ces personnes, Marie, il a vu tous les disciples, Pierre et Jean, et tout le monde. En plus, il a dit, il y avait un groupe de 500 personnes qui ont vu Jésus vivant à la fois, tous ensemble. Et la plupart de ces personnes sont encore en vie aujourd'hui. Donc imaginez, si c'était faux, hein, toutes ces personnes, tous ces témoins ou ces faux témoins auraient dit, Paul, c'est faux, on n'a rien vu. Mais là, il y avait presque, il a dit, la plupart sont encore en vie. Quelques-uns sont morts, mais la plupart de ces 500 personnes sont toujours en vie aujourd'hui. Donc, il dit cela, et il a l'appui de presque 500 témoins qui disent, oui, c'est vrai, je l'ai vu aussi. Oui, c'est vrai, je l'ai vu aussi. Oui, c'est vrai, je l'ai vu aussi. Aujourd'hui, on peut avoir un crime qui est commis, et peut-être juste avec le témoignage de 1, 2 ou 3 personnes. Pas, j'ai pas dit une preuve, j'ai dit une évidence. On peut avoir une évidence. L'évidence démontre qu'il est, il n'y a pas vraiment question que telle personne a commis un tel crime. Et sur peut-être le témoignage de 1 personne, 2 personnes, et juste 3 personnes, on va condamner une personne à la prison pour la vie même. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que tu as vu le crime? Non. Est-ce que la seule personne qui a vu le crime, c'est la personne qui est morte? Mais on a 3 personnes qui ont vu telle et telle chose qui peut lier la personne au crime. Et là, c'est catégorique, la personne est coupable. Prison. Mais là, on avait 500 témoins. 500 témoins. Mais plus que 500. 500 plus tous les autres. C'était pas juste une apparition. C'était pas juste un rêve de trop de pizza, là. Hein? J'ai mangé trop de pizza, je commençais à voir des choses et à halluciner. Non, pendant 40 jours, Jésus a parlé avec ces personnes. Gloire à Dieu. On a plus d'évidence, beaucoup plus d'évidence, qui prouve que Jésus est vivant. On dirait 500 fois plus d'évidence dont nous avons besoin dans un cours, devant un juge. Laisse-moi vous dire que si aujourd'hui on pourrait amener le cas pour Jésus-Christ et pour sa résurrection devant un juge, et si tout le monde pourrait entendre toute l'évidence, on a un sceau qui a été brisé, on a une pierre qui a été roulée, on a des soldats qui étaient effrayés, on a un tombeau qui est vide aujourd'hui, on a plus de 500 témoins qui ont vu Jésus ressuscité. Il n'y a aucun juge dans son bon sens qui dirait non, c'est pas vrai. Tous les juges qui sont honnêtes diraient vrai, il est ressuscité. Amen? Donc c'est vrai que je ne peux pas prouver scientifiquement que Jésus est ressuscité. Ça prend quand même un élément de la foi. Comme ça prend un élément de la foi pour condamner un criminel, n'est-ce pas? Il faut croire que les témoins ont dit la bonne chose et la vraie chose. Je ne peux pas prouver scientifiquement que Jésus est ressuscité. Si c'était le cas, vous n'aurez pas besoin de la foi, mais Dieu a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais je peux vous présenter aujourd'hui une évidence qui exige un verdict, on pourrait dire, une décision qui dit oui, c'est vrai, l'évidence est là, de dire autrement, ça serait ridicule et fou. Mais la 6e évidence que nous avons est que personne ne peut réfuter, c'est qu'on a les vies changées. Combien de vous pouvez dire que Jésus-Christ de Nazareth est vivant aujourd'hui et qu'il a changé votre vie? Alléluia! La personne avec une expérience va toujours avoir l'avantage sur la personne avec un argument. Ouais, mais moi, je ne suis pas sûr que c'est vraiment le cas, que Jésus est vraiment ressuscité. Mais moi, je sais parce que je le connais. Moi, je sais parce que je l'ai rencontré. Moi, je sais parce qu'il a changé ma vie. J'ai toute cette évidence, mais il a changé ma vie. Hein? Combien de vous avez eu un miracle dans votre vie? Moi, je parle pas d'un, mais je parle d'un vrai miracle que même le monde dirait pas d'explication. Je peux pas expliquer, mais moi, je sais, je vois que toi, tu as la main dans l'air et je pense que ta fille avait juste un poumon, n'est-ce pas? Elle avait juste un poumon et puis après avoir eu la prière, ils ont fait d'autres rayonnettes et la fille qui n'avait qu'un seul poumon a aujourd'hui deux poumons. Ça, c'est un miracle, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire, c'est pas une théorie qui a fait cela, c'est Jésus ressuscité qui a fait cela. Hein? On pourrait prendre tellement d'exemples des personnes ici, assises dans la pièce aujourd'hui, qui ont eu des choses qui ne sont pas explicables. Sauf que Jésus est vivant. Amen. En Actes chapitre 4, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Marc 16, 20 dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc là, on sait une chose. Jésus est vivant. Et quand il est monté au ciel, il ne s'est pas assis, se croiser les bras. Mais il a dit, bon, j'ai envoyé mon église pour aller prêcher. Et aussi longtemps qu'ils font leur part, je vais faire ma part. Eux autres, ils vont prêcher la parole, je vais confirmer la parole. Avec des signes, des miracles et des prodiges. Des signes comme on vient de mentionner, un poumon. Hein, la bactérie mangeur de chair qui arrête. Hein? Et les médecins disent, mais je pense qu'on a eu de l'aide, n'est-ce pas? C'est quoi qu'il a dit exactement? Il y a un plus grand médecin que moi, une chose de ce genre. C'est vrai. C'est la réalité. Hein? C'est Jésus qui est vivant. Alléluia. Donc Jésus est vivant. Et on a les vies changées pour le prouver. Ma vie fut changée, votre vie fut changée. Et si votre vie n'a pas encore été changée aujourd'hui, c'est votre journée d'être changée par le Fils de Dieu ressuscité. Amen. Donc, en fait, la question qui se pose, deuxième page de bonne note, c'est comment est-ce que cela doit changer ma vie? Oui, OK. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, qu'est-ce que ça change dans ma vie aujourd'hui en 2006? Il y a un verset en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12, qui dit ceci. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. » Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Savez-vous que si Jésus n'est pas ressuscité, pourquoi est-ce qu'on donne notre vie pour le Seigneur Jésus? Encore, ça défait, on pourrait dire, la théorie que oh, les disciples ont volé le corps de Jésus, ou que, etc., etc. Est-ce, croyez-vous vraiment que si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, qu'ils auraient osé prendre la chance de faire face aux soldats romains, briser un sceau? Hein? Pourquoi? Si leur leader est mort, il était encore mort, il n'est pas ressuscité, là, c'est le moment pour eux de dire, on était trompés, on a suivi un faux prophète. Pierre, qui a dit, oh Seigneur, je vais mourir avec toi. Quand Jésus fut crucifié, il avait tellement peur d'avouer, il a renié Jésus trois fois. Il a même commencé à blasphémer jusqu'au point qu'il avait peur. Et même quand Jésus fut ressuscité, Jésus est allé voir ses disciples et il a trouvé ses disciples où? En arrière d'une une porte fermée et barrée. Et la Bible dit qu'ils avaient tous peur. notre leader fut crucifié, ils vont peut-être venir nous chercher prochainement. Mais laisse-moi vous dire, impossible que l'Église pourrait exister aujourd'hui si Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Toutes ces personnes auraient abandonné leur secte. On pourrait dire, hein? Leur faux prophète qui a menti, qui est mort et qui n'a pas sauvé qui que ce soit et qui n'a pas pris l'autorité et qui n'a pas banni les Romains comme ils auraient aimé. Il est mort. On n'a plus d'espoir. Mais non, il est ressuscité. Il est ressuscité jusqu'au point où on voit que tous les autres disciples, sauf l'apôtre Jean, ont donné leur vie littéralement comme martyrs juste pour la foi dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Croyez-vous que ces hommes auraient donné leur vie pour un faux prophète? Je crois que non. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça change dans notre vie? La bonne nouvelle, et on va terminer avec ces trois pensées aujourd'hui. Jésus est ressuscité, gloire à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis ressuscité avec lui aussi. Et parce que Jésus est ressuscité, mes péchés sont pardonnés, je suis devenu une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, je peux vivre comme une nouvelle personne. Romains 6, 3 dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, souligne cette phrase, avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. L'homme que j'étais avant n'existe plus. » L'apôtre Paul, qui a écrit cela sous l'inspiration de l'Esprit, il était tellement convaincu de la réalité de la résurrection et de sa nouvelle identité en Jésus-Christ, qu'il était une nouvelle personne, que quand il a écrit 2 Corinthiens chapitre 7, il a dit aux Corinthiens, « Fais une place pour nous dans votre cœur. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons fait tort à personne. » C'est qui parle? Selon le naturel, c'est Saul de Tarse, celui qui a persécuté l'Église. C'est lui qui était là quand ils ont lapidé Étienne et quand ils ont vu couler le sang d'Étienne, le premier martyr de l'Église. C'est Saul de Tarse qui a fait cela. C'est Saul de Tarse qui a cherché les lettres pour aller poursuivre les chrétiens, les mettre en prison, les tuer et les persécuter jusqu'à la mort. Comment ça qu'il a pu dire « J'ai fait tort à personne, j'ai ruiné personne. » Pourquoi? Parce que toutes les choses qu'il a faites dans son ancienne vie furent enterrées avec Jésus-Christ. Il est mort avec Christ, enterré avec Christ. Pourquoi est-ce qu'on nous faisons les baptêmes d'eau? Parce que ça représente l'enterrement et la résurrection. Je n'ai pas pu résister pour marcher à la nouveauté de vie. Et vous aussi. Laisse pas le diable vous dire que « Oh, mais vous êtes un bon à rien. » N'oubliez pas ce que vous avez fait quand vous avez tel âge, vos anciens péchés. Laisse-moi vous dire que si vous êtes en Jésus-Christ, ces choses n'existent plus. Et que parce que Jésus vit, vous pouvez vivre une nouvelle vie comme une nouvelle personne qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait aucun tort et aucun mal à qui que ce soit. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, vivre comme une nouvelle personne grâce à la résurrection. Parce qu'il vit, vous pouvez aussi activer cette nouvelle puissance que le Seigneur vous a donnée. Vous savez que ça a pris une puissance incroyable pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Pourquoi? Ce n'est pas juste un corps physique qui est revenu à la vie. Mais son esprit, fut séparé d'avec le Père. Celui qui est parfait, celui qui n'a pas connu le péché, est devenu péché pour nous. La Bible nous enseigne que... En réalité, même si les soldats romains, les juifs, ont livré Jésus à la mort, en réalité, c'est les principautés et les puissances démoniaques qui étaient impliquées dans la crucifixion de Jésus. Combien de vous avez vu le film Narnia? Est-ce que des personnes qui ont vu cela? Il y a une scène dans cela de la crucifixion du lion. Et dans un sens, je pense que c'est une des meilleures scènes de la crucifixion que j'ai jamais vue dans un film. Parce qu'on voit les êtres bizarres et toutes les choses démoniaques qui sont autour du lion, qui crient et qui sont en train de blasphémer ou quoi que ce soit. Mais vous savez que même si il y a 2000 ans, les hommes ont pris les marteaux, les hommes ont pris les clous, les hommes ont pris la lance pour percer le côté de Jésus, c'était inspiré par les démons et par la puissance des ténèbres. Nous ne luttons pas contre le chair et le sang, mais contre les puissances de l'air, n'est-ce pas? Et quand Jésus fut crucifié, vous savez que toute la puissance des ténèbres, Satan et un tiers des anges que Dieu a créés, étaient là pour garder Jésus mort. Moi, je sais c'est quoi de pécher et je sais c'est quoi d'avoir le fardeau de péché sur ma vie. Est-ce que vous avez vécu cela, la tristesse le fardeau et la pression qui viennent avec le péché? C'est lourd, n'est-ce pas? Mais ça, c'est votre péché. Mais imaginez qu'est-ce que Jésus avait sur lui. Il avait vos péchés. Imaginez votre pire journée, la pire journée que vous avez eue de toute votre vie. Et le fardeau que vous avez ressenti, l'angoisse que vous avez eue. Et maintenant, multipliez cela par plus de 6 milliards de fois. Parce qu'aujourd'hui même, il y a 6 milliards de personnes sur la planète et Jésus a porté tous leurs péchés, plus tous les péchés de ceux qui ont vécu avant et tous ceux qui vont être nés dans le futur. Tout leur péché, toute la pénalité du péché était mise sur Jésus-Christ. Quel fardeau! Ça a pris toute une puissance pour la ramener de la mort, n'est-ce pas? Mais regarde bien ce verset, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, 19. « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Donc on voit que la plus grande puissance que l'univers a jamais témoigné, c'était lors de la résurrection de Jésus-Christ. C'était beaucoup plus qu'une résurrection physique. La puissance de Dieu fut relâchée et toutes ces démons et ces principautés et ces puissances des ténèbres furent désarmées dans un instant. Et la Bible dit que Jésus a fait un spectacle d'eux. Jésus a fait un spectacle d'eux. Imaginez! En fait, jusqu'au point où la Bible dit que si ils auraient su, ils n'auraient jamais crucifié le roi de gloire. Si seulement on savait qu'il était pour revenir à la vie, nous désarmer et en plus mettre son esprit dans toutes ces autres personnes. Là, on avait un homme au sein du Saint-Esprit. Et le jour de Pentecôte, imaginez la terreur dans le cœur de Satan quand il voyait le même esprit répandu sur toute chair. 120 personnes remplies du même Esprit Saint. Alléluia! Et puis il prêche et dans une journée, 3000 autres âmes sont ajoutées. Et là, on a 3120 personnes qui ressemblent à Jésus, qui ont le même Esprit, la même puissance en eux qui était sur lui. Et cette puissance agit, la Bible dit, en ceux qui croient. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas, cette puissance n'agit pas. Regarde bien. Romains 8, 10. Et si Christ est en vous, combien de vous pouvez dire que Christ est en vous? Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? Alléluia! C'est pas un esprit semblable. Comme je dis, l'autre jour, c'est pas le choix du président, c'est la vraie chose. C'est la vraie chose. Exactement le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Exactement le même esprit peut vivre en vous aujourd'hui. Et si le même esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. J'aimerais avoir une heure juste pour prêcher là-dessus. Parce que là, on voit que la Bible, dans le contexte du verset, dit que Notre corps physique est quand même infecté par le péché. La loi du péché et de la mort agit dans nos membres. C'est-à-dire que même si je suis sauvé, des fois, je vais avoir une tendance à faire quelque chose qui n'est pas correct. Ma chair va vouloir piquer une crise ou quoi que ce soit. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je peux croire et activer la puissance de l'Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va vivifier mon corps physique et mon corps qui voulait faire un geste qui n'est pas correct va maintenant faire du bien. Alléluia! Le corps qui voulait prendre un coup, si vous luttez avec l'alcool ou la drogue ou quelque chose, le même corps qui voulait consommer, maintenant, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va vivifier ton corps physique. Et vous n'êtes plus redevable à la chair pour obéir à ses convoitises. Amen. Donc, parce qu'il vit, je peux vivre dans la sainteté. Amen. Donc, activez cette nouvelle puissance. Et finalement, dernière chose qu'on va voir aujourd'hui. On peut régner, parce qu'il vit, on peut régner dans notre vie. Et on peut régner de votre nouvelle position. Vous êtes une nouvelle personne, vous avez une nouvelle puissance, et vous avez une nouvelle position en Jésus-Christ aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis cela, une nouvelle position? Parce qu'autrefois, avant de connaître Jésus, nous étions tous ici sur la terre, abattus, sans espérance, sans Dieu, sans alliance. Mais quand Jésus est venu, il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle puissance. Mais regarde bien Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Moi, je suis content que c'est par grâce. C'est pas par les œuvres, mais vous? Mais verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Moi, j'ai une nouvelle position en Jésus. Je suis littéralement aujourd'hui enfant de Dieu. Je suis en Jésus, Jésus est en moi. Et légalement parlant, quand je suis né de nouveau, je suis ressuscité avec Jésus et assis avec lui dans les lieux célestes. J'ai une position d'autorité. La Bible dit que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus. Jésus est la tête, nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Les pieds se trouvent où? Dans le corps, n'est-ce pas? Et si Jésus a mis toutes choses sous ses pieds, toutes choses sont sous son corps. C'est pourquoi on ne peut pas avoir cette attitude, mais moi je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Non, j'étais un pécheur. J'étais mort dans mes offenses. Et Dieu m'a ramené à la vie avec Jésus, et il m'a ressuscité avec lui, il m'a fait asseoir avec lui et en lui dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle position. Donc, au lieu d'être là en train de regarder mes problèmes et se sentir écrasé par la pression du monde et les difficultés de cette vie, combien de vous savez qu'il y a des difficultés dans la vie? Au lieu d'être écrasé et à terre, je peux regarder d'une autre optique et dire non, alléluia, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et mon problème a l'air pas mal plus petit. Amen. Alléluia. Convenez-vous, vous avez déjà pris l'avion. C'est quelque chose. Ou au moins, vous avez utilisé Google Earth. Vous savez c'est quoi Google Earth? Hein, quelques-uns, sur l'ordinateur, il y a un programme que tu peux parcourir toute la planète et il y a des images du satellite et tu peux voir probablement ta maison même. Même à Drummondville, c'est moi par exemple. Hein? Non, c'est vrai, hein? C'est moi en clair l'image du satellite. Mais littéralement, l'autre jour, quelqu'un m'a dit « Hey, tu devrais checker ça » et j'étais capable d'aller trouver toutes les places. Moi, j'ai déménagé 22 fois dans la vie. J'étais capable d'aller visiter et voir, c'est là où j'habitais, les deux places où j'habitais en France. Voilà la maison où j'ai grandi. J'ai vu les places où mon frère et moi, on a joué. On peut voir littéralement. Mais c'est petit de même. Mais quand je grandissais, c'est comme, oh, ça c'est énorme. Hein? Mon quartier, c'est grand, c'est énorme. Mais quand on voit ça en perspective, et on est capable de voir avec les yeux de Dieu, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Nos problèmes sont pas mal petits. Gloire à Dieu.
Vivez comme une nouvelle personne. Activez cette nouvelle puissance et commencez à régner de votre nouvelle position dans Jésus. En fait, Romains 5, 17, dernier verset qu'on va lire ce matin, dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Grâce à la résurrection, je suis justifié maintenant. Grâce à la résurrection, je peux régner dans la vie comme un roi. Alléluia. Jean-Charles, si tu veux venir au clavier, on va prier pour terminer aujourd'hui. Combien de vous, vous croyez que Jésus est ressuscité? Alléluia. Si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, je vais dire quelque chose qui est assez sec, mais c'est avec amour. C'est ma conviction que si vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus, après avoir vu, après avoir examiné l'évidence pour sa résurrection, une de deux choses est possible. Soit, comme 2 Corinthiens chapitre 3 dit, si notre évangile est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent. Donc, le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé les yeux afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Jésus-Christ. Soit vos yeux sont voilés et aujourd'hui, la vérité peut enlever cette voile. Ou vous avez vu la vérité, mais vous avez pris une décision de ne pas y croire. La Bible parle de cela, les personnes qui se trompent soi-même. Savez-vous que vous pouvez vous tromper vous-même? Parce que des fois, on ne veut pas croire à la réalité de l'Évangile. Parce que si on croit que Jésus est vraiment ressuscité, là, j'ai une responsabilité. Parce que je ne peux pas juste dire, bon, oui, Jésus est ressuscité, mais je ne veux pas ma vie pour lui. Soit, il est qui l'a dit, le Seigneur. Mais c'est comme j'ai fait référence au film Narnia. C.S. Lewis a dit ceci, il a dit, en réalité, on ne peut pas juste dire que Jésus était une bonne personne, un bon prophète, on peut suivre son exemple, da-da-da-da. Soit, il était maniaque, parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Soit, il était menteur, ou il est vraiment maître. Maître. Pas juste sauveur, mais maître. Moi, je sais que Jésus est ressuscité. L'évidence est là. On peut dire, non, je crois pas. Bon, j'ai entendu une personne dire une fois qu'on ne peut pas vraiment se fier sur la Bible et ta-da-da-da. L'évidence est là. Et si vous voulez vous continuer à vous tromper, en écoutant les choses qui, dans le fond, n'ont aucune fondation. C'est votre choix. Mais la bonne nouvelle, aujourd'hui, j'ai prêché la vérité. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, Jésus revient bientôt. Et avec tous les yeux fermés, Père Céleste, je prie que si par chance il y a quelqu'un ici avec les yeux voilés, que cette voix soit enlevée, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, qu'on ne soit pas juste convaincu intellectuellement, mais dans notre cœur, qu'on sait. Donne-nous une révélation de la réalité de la résurrection, Seigneur. Que tu es vivant et tu vis éternellement. Et Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que personne puisse quitter cette salle aujourd'hui sans avoir pris une décision. Pas juste de croire que tu es ressuscité, mais de céder sa vie. Et de te recevoir comme Seigneur, comme Maître. Et de vivre pour toi, comme une nouvelle personne, avec une nouvelle puissance, de nouvelles positions d'autorité. Avec tous les yeux fermés, je veux juste savoir, tous les dimanches matins, on donne toujours cette invitation. J'ai pris un engagement devant le Seigneur il y a bien des années, que je ne laisse pas passer un dimanche sans donner l'occasion pour les gens de venir à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous avez entendu la bonne nouvelle. Jésus a pris votre place, il a été crucifié, enterré, ressuscité le troisième jour. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. C'est pas une invitation de devenir membre de l'Église de la vie comblée. Nous sommes juste une Église parmi beaucoup de bonnes Églises. Mais c'est une invitation aujourd'hui de faire partie de la famille de Dieu et de faire partie de Jésus-Christ, qui est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, qui est ressuscité, qui vit éternellement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux donner la vie à Jésus. Je crois qu'il est ressuscité, mais je sais que j'ai besoin de lui donner ma vie, de l'accepter comme mon Sauveur, comme mon Seigneur et comme mon Maître personnel. » Soyez pas gênés. Jésus dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main ce matin et disait, moi, j'ai besoin de recevoir Jésus. J'ai besoin de donner ma vie à lui. J'ai besoin de vivre pour lui.